Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Créodyssée, le podcast qui voyage sans fin dans le monde infini des processus créatifs des arts et de l'innovation. Dans notre aventure audiophonique, contrairement à celle d'Ulysse, nous ne recherchons pas notre Ithac. Nous ne sommes pas en quête d'une heureuse et confortable destination pour nous y laisser vivre avec nos certitudes jusqu'à la fin de nos jours. Non. Nous préférons cette vie d'errance sans fin, d'île en île, l'exploration de ces petits bouts de terre sur lesquels nous ne cessons de découvrir des artistes singuliers et inattendus. Depuis que nous avons commencé, nous avons rencontré toutes sortes d'esprits inventifs. Des plasticiens, des musiciennes, des acteurs, des autrices. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une pratique créative à laquelle on ne pense peut-être pas spontanément quand on parle de création artistique, les bonsaïs. D'ailleurs, et nous y reviendrons certainement, la création et l'entretien des bonsaïs entrent-ils dans le champ de la pratique artistique ? On a tous une représentation plus ou moins précise de ce que sont ces petits arbres, souvent inspirants, et peut-être que sur le sujet, nous avons aussi pas mal d'idées reçues qu'il serait intéressant de déconstruire. Alors, pour nous éclairer sur les bonsaïs, leur histoire, leur création et leur culture, je reçois aujourd'hui Éric Berthélémy et Michel Bisserier. Donc Éric Berthélémy qui est le président du Bonsaï Club de Reims. Bonjour Éric et bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Éric.
Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Créodyssée.
Avec plaisir.
Éric Berthélémy, Michel Bisserier, vous êtes donc membre du Bonsaï Club de Reims. Avec vous, nous allons donc découvrir, j'espère, l'ensemble du processus créatif autour des bonsaïs, ces petits arbres miniatures. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à Créodyssée, on aime bien faire un petit peu connaissance avec nos invités. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous vous souvenez à quel moment de votre vie vous avez découvert les bonsaïs ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier.
Ça va être moi.
Éric Berthélémy, oui.
Allez, c'est parti. Oui. Donc, j'ai commencé l'histoire des bonsaïs vers l'âge de 18 ans.
D'accord.
On m'avait offert un ficus. Et petit à petit, je suis rentré dans ce monde un petit peu inconnu. Puis, de fil en aiguille, j'ai cultivé d'autres arbres, mais sans savoir réellement que je faisais du bonsaï. Car souvent, on pense que le bonsaï, c'est mettre un arbre dans un pot, simplement. Or, ce n'est pas que cela. Il y a toute une histoire derrière.
D'accord. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez vu ce petit ficus, est-ce que ça a suscité une émotion particulière chez vous ?
Émotion, l'idée de faire vivre un arbre dans un pot, effectivement, c'est surtout cette idée. Puisque l'arbre, généralement, il ne vit pas dans un pot, il vit en pleine nature, il vit dans un sol. Et le fait de le mettre dans un pot, il y a une contrainte pour lui. Ouais. Donc l'idée de le faire vivre le plus longtemps possible, c'était ça.
D'accord, il y a plus un intérêt presque technique de défi, plus que...
Ouais, dans un premier temps, c'était ça.
Plus qu'esthétique.
Oui, ouais, petit à petit, l'idée de l'art, effectivement, m'est venue.
D'accord, ok. Et vous aviez, jeune, une sensibilité à l'art particulière ? Est-ce que vous étiez d'une famille où on pratiquait les arts ? Il y avait...
Non, pas
forcément.
Pas directement.
D'accord, mais, ok.
Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours apprécié la nature, l'art de... Oui. L'idée de faire germer, voilà, des graines.
D'accord, ok. Et donc, à partir de quand vous avez commencé à apprendre, on va dire, des gestes plus techniques pour entretenir, voire pour créer des bonsaïs ? Je pense qu'au début, on apprend peut-être plus à l'entretenir, et puis dans un deuxième temps, à vouloir les créer de zéro.
On s'est rencontrés entre passionnés, Ray et moi, on était trois à l'époque, et on a appris petit à petit à faire vivre nos arbres le plus longtemps possible, et à les cultiver, à les faire croître aussi, parce que c'est le but en soi, c'est de le faire pousser. On a toujours tendance à penser que l'arbre doit rester petit, mais non.
D'accord.
On doit le faire pousser.
D'accord. Et alors Michel Bisserier, je vais vous poser un petit peu le même genre de question. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous découvrez les bonsaïs ?
Oui, je m'en souviens très bien. Il y a une quinzaine d'années, mon épouse a reçu un bonsaï de ses petits-enfants.
D'accord.
Et ce bonsaï, eh ben, malheureusement, il est mort.
Oui.
Donc on lui en a racheté un autre, et malheureusement, il n'était pas, il a eu du mal à vivre.
Mmh.
Et donc mon épouse, à l'occasion d'une exposition à Reims, a pris connaissance avec le bonsaï de club de Reims.
D'accord.
Et elle s'est rencontrée, ils se sont rencontrés, elle a participé aux réunions pour essayer de sauver cet arbre, qui, malheureusement, je crois, n'a pas survécu non plus.
D'accord.
Et de ce fait, comme je l'emmenais tous les vendredis soirs d'où on habitait jusqu'à Reims, ça faisait pas mal, donc elle prenait pas la voiture. Et donc je l'emmenais tous les vendredis soirs. Donc on partait pour 8 heures et on rentrait à 11h30, minuit, enfin voilà. Et mon épouse ne voulait pas conduire la nuit. Donc c'est moi qui me coltais le trajet. Et surtout, l'hiver, c'était maman. Et puis du coup, ben, de ce fait, moi j'ai participé aux réunions à titre amateur, visiteur. Et puis du coup, ben, de fil en aiguille, je me suis pris de passion pour cet art, si on veut dire de l'art, quoi, cette culture de l'arbre, de l'entretenir. Du coup, ben, j'ai adhéré au club, et puis voilà, maintenant, une quinzaine d'années, et puis maintenant, ben, y en a plein de jardins.
On reviendra tout à l'heure sur cette notion d'art ou pas, est-ce que c'est de l'art ou pas, bon. Pour en revenir à l'apprentissage, Éric Berthelmy, est-ce que quand vous commencez à apprendre à les créer, est-ce que vous vous souvenez à partir de quoi vous apprenez? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des stages? Est-ce que c'est la fréquentation d'un club? Ou de l'intuition?
Oh, pas du tout. Non. J'ai commencé à progresser, effectivement, à plusieurs.
Ouais,
donc, en vivant dans un club.
D'accord.
L'idée d'un club, c'est de partager les connaissances, alors des connaissances livresques, hein, dans un premier temps, mais après des connaissances via Internet et via les stages, car il est important d'avoir aussi un contact humain. Le livre, comme l'Internet, ne suffit pas. Il faut réellement qu'on soit accompagné par une personne compétente, formée notamment par la Fédération Française de Bonsaï, pour vraiment progresser dans cet art.
D'accord. Et vous, Michel Bisserier, donc, de ce que j'ai compris de votre histoire autour des Bonsaï, c'est par l'intermédiaire du club que vous avez
Tout à fait. C'est par l'intermédiaire du club que j'ai fait du Bonsaï.
D'accord.
Je me suis mis à faire du Bonsaï.
D'accord. Donc j'imagine qu'il y a eu plusieurs phases, peut-être au début dilettant, puis après des pratiques de plus en plus intensives.
Oui, tout à fait. Hein. Oui, on démarre par la, enfin, on rentre par la petite porte, puis on se rend compte que finalement, au bout d'un certain temps, il n'y a pas qu'une petite porte.
Oui.
Il y a une grande quantité de portes, et le but, c'est de se nourrir d'un maximum, de connaissances pour progresser. Et si on progresse, on progresse aussi au niveau de ces arbres. Et ces arbres évoluent.
Oui. Et donc j'ai lu que vous avez acquis le statut de formateur.
C'est ça.
Vous avez fait une formation pour devenir formateur de bonsaï, donc qui vous autorise entre guillemets à donner des cours, à former des gens dans des clubs.
Voilà. Oui. Effectivement.
Et qu'est-ce qui vous a mené à ce choix?
Parce que pour mener à bien une mission telle que l'art du bonsaï, il faut vraiment avoir des capacités, des connaissances, et c'est seulement une fois qu'on a cette assise que l'on peut les diffuser autour de soi.
Donc il y a la démarche de pour pouvoir former les gens, il faut que je sois moi formé au maximum.
C'est ça.
Et pour faire face à tout type de questions.
Je dis pas tout type de questions parce qu'effectivement il y a un maximum de questions effectivement, mais l'idée c'est de se dire bon. Les adhérents, futurs adhérents, ils vont arriver avec des questions. Il faut que je sois à même de leur enseigner.
D'accord.
Après, il y a des questions qui me dépassent aussi, hein,
bien sûr,
personnellement.
Oui.
C'est pour ça qu'on a aussi, au sein même de la fédération, différents niveaux. Moi, je suis au niveau 1. J'espère pouvoir passer au niveau 2 lors de la future exposition à Damery.
D'accord, ok. Donc cette exposition, on va revenir tout à l'heure. Hein, donc vous allez bientôt organiser une exposition à Damery près d'Épernay. Oui. Et donc à cette occasion-là, vous allez passer une sorte d'examen, c'est ça?
C'est ça.
Ah,
un
d'accord.
Examen.
Ok.
Un examen. Okay. Un examen de connaissances, un examen des examens pratiques.
D'accord.
Et donc je serai jugé par des formateurs. Diplômé, hein.
Ouais. Voilà. Et il y a combien de niveaux comme ça?
Il y en a trois.
Il y en a trois, d'accord. Et alors l'un comme l'autre, maintenant, vous avez acquis une collection personnelle. Vous avez combien d'arbres à peu près?
Ah, quand on dit arbre, vous voyez, on revient sur l'idée de bonsaï.
Oui.
À vrai dire, avoir un bonsaï, ça, c'est pas simplement. Je reviens sur l'idée, hein, d'avoir un arbre dans un pot, parce que ça, n'importe qui peut dire. Moi, j'ai un arbre.
Oui.
Dans un pot, c'est un bonsaï.
Mmh.
Eh ben non. Mmh. Donc, je vais être simple, très humble. J'ai 10 bonsaïs. Quand
d'accord.
Je dis 10 bonsaïs, okay. C'est des arbres qui sont déjà bien évolués.
D'accord.
Voilà.
Et ça paraît assez peu comme ça. Mais...
Ça paraît peu.
Ouais.
Mais après, j'en ai une autre collection, donc des arbres qui sont en culture, qui sont en pré-bonsaï.
D'accord.
Voilà, on parle de pré-bonsaï.
D'accord.
C'est
ok, intéressant. Mmh. Et vous, Michel Bissurier?
Ben, c'est à peu près pareil. Hein.
Ouais, d'accord.
Des arbres, on en a,
ouais.
J'en ai.
Mais à plusieurs stades de d'évolution.
Différents stades, hein, tout petits, grands, pré-bonsaï. Et puis des arbres, disons, qui sont prêts à exposer, ben, c'est pareil. Hein, entre 10-15, réellement à peu près pareil. Quoi. Mais,
d'accord.
Donc des arbres qui peuvent être présentés dans les expos, comme on va faire bientôt. Il y en a peut-être une dizaine, quoi. Qui sont présentables en tant que bonsaï.
On va maintenant aborder vraiment le cœur du sujet, à savoir l'art et la manière de créer et de cultiver les bonsaïs. Alors, tout d'abord, des choses très basiques. Quand on parle de bonsaï, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'il y a une définition précise?
Alors, le bonsaï, étymologiquement, c'est un arbre en pot. Simplement.
D'accord.
Arbre en pot. Un arbre qui vit dans un pot.
Mais j'imagine que ça va un peu au-delà de ça. Quand on aborde, on va forcément aborder des questions esthétiques.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Mais là, ça rentre pas. Enfin, je veux dire, le terme de bonsaï, on n'arrive pas à le définir un peu plus que arbre dans un pot.
Bah, dans un premier temps, non.
D'accord.
Et c'est ensuite que le bonsaï prend toutes ses lettres de noblesse avec le temps.
Ok. Alors, j'aimerais savoir quelque chose. C'est qu'est-ce qu'on sait des origines des bonsaïs?
Alors. À vrai dire, ça a commencé en Chine.
Oui.
Voilà. Donc, les Chinois faisaient des penjing, c'est-à-dire des paysages, une vision de paysage. Puis, petit à petit, sont les moines qui sont partis, et notamment partis au Japon. Et là, au Japon, donc, ils ont apporté aussi donc des connaissances chinoises, hein, parce que c'est des moines chinois qui partaient au Japon. Et de ce fait, les Japonais ont appris de la technique entre guillemets de l'art de chinois pour eux-mêmes créer leur propre bonsaï, leur propre art.
D'accord.
Donc il y a deux types, hein. Il y a les bonsaï, on va dire chinois, et les bonsaï japonais, et les bonsaï taïwanais, il y a des bonsaï européens.
D'accord. OK. Alors j'ai entendu quelque part, mais je sais pas si c'est vrai, ça serait né de médecins en fait qui avaient des plantes médicinales. Et pour éviter d'avoir à courir la montagne tous les 10 jours et faire des kilomètres, ils les gardaient chez eux dans des pots. Mais c'est peut-être une idée reçue.
Là, je peux pas.
D'accord, vous n'avez pas entendu parler de ça.
Non.
Ok.
Parce qu'au départ, c'était les femmes chinoises qui s'en occupaient. Par désœuvrement, hein, par désœuvrement, ils s'occupaient des arbres. Et après, c'est reparti au Japon, quoi. Mais tout au départ, l'histoire d'accord. de plantes médicinales.
D'accord, vous
n'avez
pas forcément entendu parler.
Donc,
d'accord. Okay, ça. Et ça daterait de quelle époque à peu près? On arrive à l'estimer?
Entre 500 et oui, on va
oui,
dire
oui,
entre
oui,
500
oui, oui.
et 1000.
Ouais, d'accord.
À peu près là, c'est de cette période-là.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Et en France, en Europe ou dans le monde occidental, ça arrive quand à peu près?
Je pense que c'est avec les grandes découvertes. À peu près.
D'accord,
ouais.
Ça marche. Alors, on va passer maintenant donc au cœur du sujet, au processus créatif. Alors, je vais poser une question très naïve, mais on en entend parler des fois. Donc, faire un bonsaï, c'est pas prendre un arbre dans la nature, lui mettre un produit magique pour qu'il rétrécisse. C'est, vous confirmez, c'est pas comme ça qu'on fait.
Non,
non,
c'est pas comme ça.
On l'entend, hein, on l'entend. Donc voilà, je posais la question de manière très naïve. Alors, si on veut créer un bonsaï, on part de quoi?
Ah.
On peut partir de quoi? Parce que j'imagine il y a plusieurs solutions.
Comme je l'évoquais au tout début, on peut partir de la graine. On plante une graine et petit à petit, ben cette graine germe, hein, elle germe et puis elle donne naissance à un flutio, puis petit à petit à un arbre et puis et un arbre qui grandit avec le temps. Bon, ça c'est une technique qui demande du temps. On le comprend, on comprend bien. Donc là, on part sur entre 10 et 20 ans pour vraiment obtenir, on va dire, un bonsaï. Mmh. Après, il y a d'autres techniques telles que le marcotage.
D'accord.
Donc le marcotage consiste à faire une incision sur une branche. Cette incision est recouverte d'un, on va dire, de mousse, humide, humidifiée. De ce fait, des racines vont pousser au niveau de cette incision. Ensuite, une fois qu'il y a suffisamment de racines, on coupe au-dessous de cette incision, conserve donc l'arbre, enfin le futur arbre, plus bah, les racines que l'on peut ensuite replanter.
D'accord. Okay.
Voilà, simplement. Mm-hmm. Ensuite, on peut prélever des arbres.
Mm-hmm. Voilà. En pleine nature.
En pleine nature.
D'accord.
Ou dans son jardin.
Dans son jardin, même. Oui,
simplement.
Oui, oui. Mm. Avec l'avantage d'avoir déjà un sujet qui est un petit peu plus... Enfin, il a gagné des années en pleine nature, et il a déjà un potentiel intéressant.
C'est ça.
Enfin, on va le sélectionner pour ça, j'imagine.
On a gagné des années par rapport à la graine.
Mmh. D'accord. Mmh. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi notre sujet, on l'a prélevé dans la nature, on va dire, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, une fois qu'on l'a prélevé, bah, il faut l'acclimater. L'acclimater, c'est l'adapter à son futur habitat.
Mmh. Et je reviens juste une étape avant pour bien savoir ce qu'on dit. Prélever dans la nature, c'est-à-dire on l'arrache du sol et on le met dans un pot.
C'est ça.
On le met déjà dans un pot.
Ouais. Alors pas automatique, pas dans un pot dit bonsaï. Hein.
D'accord.
Hein, donc généralement, on met dans un pot adapté à la taille des racines.
D'accord. Okay. Hein,
on ne peut pas réduire considérablement les racines pour se dire je vais le mettre dans un pot à bonsaï pour que réellement il ressemble à un bonsaï. Mmh. Là, on conduirait automatiquement à la mort de l'arbre.
D'accord. Okay.
Donc on est obligé d'adapter le pot à la taille des racines.
Donc alors, on reprend le fil là où je vous avais interrompu. Donc on acclimate l'arbre dans un premier temps. Mmh. Ça veut dire
que on arrache l'arbre à sa terre d'origine. Mmh. Or, faut savoir que la terre d'origine ne convient pas du tout, à la culture en pot.
C'est-à-dire qu'il faut privilégier un autre type de substrat, du coup.
Voilà, il faut utiliser d'autres terres. Pour faire simple, hein, des terres beaucoup plus drainantes pour que les racines puissent ainsi se développer. Car les terres que nous avions, que nous avons par ici, sont des terres qui sont très chargées en glaise, donc qui étoufferaient les futures racines. Donc on est obligé petit à petit d'enlever cette glaise pour adapter l'arbre à une nouvelle terre qui lui permettra le développement de ses racines.
D'accord. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait?
Bah déjà ça a pris au moins 2-3 ans.
D'accord.
Voilà. Okay. Parce que l'arbre il a besoin de se faire une nouvelle santé, donc de gagner en énergie. Et c'est seulement à cette condition-là que l'on va pouvoir cultiver son arbre. Si l'arbre n'a pas cette énergie suffisante, une nouvelle fois on ira à un échec. Qu'une fois que cette énergie est vraiment présente, on peut commencer la culture et donc le choix de ses futures branches.
D'accord. Donc on va sélectionner un ensemble de branches qu'on va garder ou non.
Oui.
D'après des critères purement esthétiques. Pas que. Je vous vois sourire.
Non. Non, pas que. Parce que tous les arbres ne se ressemblent pas.
Oui.
On le sait bien. Hein,
oui.
Il suffit de se promener dans la nature pour qu'on puisse s'apercevoir que tous les arbres ont une forme différente, d'une part de par leur espèce ou de par leur lieu de vie. Donc, en fonction de l'arbre, en fonction de son espèce, en fonction de son tronc, on va privilégier des formes différentes.
D'accord. Et ça répond à des codes esthétiques particuliers ?
Ça répond à des codes esthétiques.
D'accord.
Eh oui. Donc, bah, ces codes, bah, faut savoir que les, il y a des arbres qui par eux-mêmes ont un port en cascade, pour pas la, en oui. cascade. Donc ça évoque tout de suite la cascade, un arbre qui vivait dans un lieu montagneux.
Mmh. D'accord.
Voilà. Après, on a des arbres entre guillemets plus paisibles, donc des avec des formes arrondies, donc des arbres plus de plaine. Donc ça donne vraiment un panel de styles et de donc de formes très intéressantes.
D'accord.
Donc tous les bonsaïs ne se ressemblent pas, et fort heureusement.
Et puis comme vous disiez tout à l'heure, il y a la culture chinoise, japonaise, puis occidentale qui s'est greffée par-dessus peut-être des techniques un peu plus universelles.
Oui. Oui. À vrai dire, on s'inspire encore beaucoup hein, des techniques japonaises.
Au Japon. Ouais. Ouais, d'accord.
Après, petit à petit, on se nourrit. On se nourrit de cette culture parce que les Japonais ont acquis une connaissance tellement tellement importante qu'il est important d'user de cette connaissance. Après, nous sommes Européens.
Oui.
Donc, il est important aussi pour nous d'avoir notre propre vision du bonsaï.
Et puis faire progresser la culture du bonsaï universellement. Quoi.
C'est ça. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panel du genre d'outillage que l'on utilise pour la culture ?
On n'a pas besoin de beaucoup de matériel.
D'accord.
Pas beaucoup de matériel. Un pot pour démarrer.
Ok. Hein,
l'arbre. Après, une paire de pinces. Une paire de pinces à couper. Des ciseaux. Quoi encore ? Vraiment de spécial. Un couteau. Un bon couteau. On n'a pas besoin de tellement de matériel. Pour commencer, au béaba, on n'a pas besoin, même pas 5 ou 6 outils, et puis ça suffit. Hein. On n'a pas besoin d'investir des sommes phénoménales pour commencer à faire du bonsaï.
On voit dans des expositions de bonsaï, enroulés autour de certaines branches, des morceaux de fil de cuivre, des morceaux de fil de fer, en général c'est du cuivre, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'utilité de ces fils ?
Le fil de fer, on n'utilise pas le fil de fer. Hein.
D'accord.
Il n'y a que les Chinois qui l'utilisent pour faire leur production industrielle, mais sinon, nous, non. On utilise ou bien le fil de cuivre, ou bien le fil d'aluminium.
D'accord. Hein.
Donc ça, c'est du matériel qui est fait pour maintenir les branches en place pendant un certain temps. Si par exemple on veut baisser des branches, comme par exemple pour un pin ou un truc comme ça, un sapin, si on veut baisser les branches, leur donner une forme un peu naturelle, on ligature ces branches pendant quelques mois ou un an pour lui donner la forme, et puis une fois que cette forme est donnée et que ça bouge plus, on supprime ces fils-là.
D'accord.
Ça sert simplement à mettre en forme.
Donner la forme que l'on souhaite.
La forme que l'on souhaite.
D'accord. Ok. Très bien.
Vers quoi on veut aller.
Alors, une question très subjective. On a choisi un arbre dans la nature qu'on veut prélever. On veut arriver. On va dire qu'on est un créateur de bonsaï. Comment on dit créateur de bonsaï ? Le terme de bonsaïiste existe ou pas ? C'est un néologisme qui m'est venu comme ça, mais
bonsaïka.
Bonsaïka, d'accord.
Ouais, généralement.
Okay, d'accord. Oui. Donc calqué sur le japonais, j'imagine.
C'est ça.
Ok. Donc voilà, on est un bonsaïka plutôt aguerri et on arrive à un sujet exposable pour dans une exposition, on va dire quelques années après. Est-ce qu'on a une idée de la fourchette de temps que ça prend ? Est-ce qu'on peut donner une idée de fourchette de temps que ça prend ?
Oui, long silence, parce que je reviens sur l'idée d'énergie. C'est-à-dire qu'un arbre, il donne son énergie.
Oui.
Et on est responsable de son arbre. Donc, si vous voulez, si l'arbre est suffisamment bien acclimaté à son pot, acclimaté à son substrat, on lui a donné l'engrais suffisant, parce qu'il faut de l'engrais pour le faire pousser. Je dirais, si on a donc toutes ces chances-là, on part sur, entre 10 et 20 ans.
D'accord, ok.
Voilà. Okay. Donc c'est
une bonne idée. Ouais.
C'est la culture du temps.
Oui, oui.
Voilà.
Ouais. C'est un travail. Culture du temps. C'est un travail de longue haleine et de patience.
Tout à fait.
C'est ce qui peut effectivement faire peur aux personnes qui sont donc qui sont envieuses de l'art du bonsaï et qui souhaiteraient effectivement franchir le pas. Il faut partir dans l'idée que on cultive un arbre sur de longues années.
D'accord. Donc peut-être l'idée c'est de ne pas se contenter d'en cultiver un mais plusieurs pour gérer un peu la frustration de juste le regarder. Ouais.
Oui, parce qu'un arbre, si vous voulez, il ne peut pas être travaillé en permanence.
Oui,
il faut qu'il ait aussi des temps de repos.
Oui.
Comme le disait Michel, lorsqu'on le ligature, ça lui crée entre guillemets un stress hein, dans le sens où on l'oblige à avoir une certaine forme. Donc pendant ce laps de temps, l'arbre perd entre guillemets un peu d'énergie. Suite à ça, on le déligature, on coupe ce fil de cuivre ou d'aluminium entre autres pour lui redonner de nouveau sa liberté. Et ainsi de suite. Et petit à petit, avec le temps, on arrive à le diriger vers l'endroit, enfin vers la direction qu'on le souhaite. Mais quelque part, c'est toujours l'arbre qui décide.
Ah oui.
Tout le temps. Parce que l'arbre, c'est un être vivant, on le sait tous. Et donc, automatiquement, quelquefois, une branche que l'on a souhaité ligaturer ne répond plus, parce que elle en a décidé autrement. Donc, elle est morte.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Ouais. Si on s'aperçoit qu'une branche perd de la vitalité, ben, il vaut mieux la déligaturer plutôt que d'aboutir à sa mort.
Alors, ça rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser, c'est à quel point, dans tous les choix que vous êtes amené à faire quand vous créez un bonsaï, à quel point on a droit à l'erreur?
Ben, le droit à l'erreur... disons qu'avec le temps, on se donne plus ce droit à l'erreur. Parce que on acquiert des connaissances
avec le temps, c'est-à-dire avec l'expérience.
Avec l'expérience.
Oui, d'accord. Ok. Parce qu'on saura les rattraper ou s'adapter.
Et s'adapter.
D'accord. Okay.
Et le défaut de connaissance fait que trop souvent on en perd des arbres. On en perd.
Oui.
Ouais.
D'accord. Et alors à propos des la forme qu'on va donner à notre bonsaï, est-ce que elle est relativement figée sur toute la vie de l'arbre ou est-ce qu'elle peut être amenée à évoluer?
L'arbre n'est pas figé.
Ah, déjà, il n'est pas figé parce qu'il continue à vivre.
Vivre.
Mais est-ce qu'on peut assez drastiquement modifier sa forme à un moment donné?
Oui, à un moment donné, oui.
Ah oui, d'accord.
On construit l'arbre dans notre vue. On construit un arbre. Et souvent, quand on a ces arbres, quand on les travaille, on a des vues d'autres personnes qui vous donnent aussi des idées. Donc on peut changer. Et puis il y a aussi, c'est que les arbres, bon, ils sont, l'homme est pas éternel, le patron, le propriétaire est pas éternel, et ces arbres peuvent être donnés.
Ah oui, bien sûr.
Ils peuvent être donnés. Oui. Et la personne qui va recevoir cet arbre,
il voit autre chose.
Voit une autre façon de le faire, et là, il risque de le transformer. Et donc, au départ, on a un arbre qui est fait, et après, ben, il peut partir dans une autre direction. Mais ça, c'est faisable, et ça, ça se passe dans le temps. Hein. Mais l'arbre, en général, ne reste pas figé. Et à un certain moment, il change.
Quel genre d'entretien cela demande au quotidien, mensuellement, annuellement? Donc je pense en termes d'entretien de la forme, l'arrosage, l'engraissage, les rempotages.
L'arbre, le bonsaï, répond aux saisons. Donc automatiquement, en fonction des saisons, les travaux à réaliser sur le bonsaï seront différents. Exemple, on va tous comprendre qu'en été, comme tout être vivant, on boit davantage.
Oui.
Ben, le bonsaï aussi. Donc là, en été, il faudra être très, très vigilant par rapport à l'arrosage, par rapport à son exposition. Si un être humain peut prendre des coups de soleil, ben, l'arbre aussi. Donc il faut aussi avoir une ombrière, donc les mettre à l'abri. Mmh. Donc il faut les chouchouter, il faut penser que ils sont dans un pot, et donc dans le pot, les conditions de vie sont totalement différentes. Donc il faut privilégier un espace adapté à sa vie. En hiver, l'arrosage sera réduit. Mmh. Attention, j'ai dit réduit, pas
abandonné.
Car trop souvent, même des bonsaïkas chevronnés perdent des arbres en hiver.
Par défaut d'arrosage.
Par défaut d'arrosage.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Mmh. Notamment des conifères. Mmh. Voilà. Parce que les conifères, mais continuent de pousser malgré tout. Mmh. Hein, il y a toujours une vie racinaire. Les feuillus aussi, mais à moindre mesure. Ensuite, au niveau des autres travaux.
Oui, les engrais.
Il y a les engrais à leur donner, en fonction des saisons. On ne donne pas effectivement des engrais en hiver. Mmh. Aucun intérêt. Puisqu'il n'y a pas de pousse. Mmh. Très, voilà. Par contre, au printemps, et notamment pendant la période de pousse, c'est-à-dire, au printemps, entre avril et puis juin, là, on leur donne suffisamment d'engrais pour qu'ils puissent pousser au maximum. Et ainsi, une fois que la pousse se réalise, on peut effectivement les tailler.
Je repose une question là qui me vient maintenant. J'aurais peut-être dû la poser plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que toutes les espèces d'arbres sont cultivables en bonsaï? Alors j'imagine qu'il y en a des plus faciles que d'autres, mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment impossibles à utiliser pour des bonsaï?
Pratiquement, on peut faire du bonsaï avec tous les arbres.
Ouais, d'accord.
Je dis bien, pratiquement. Ouais. Il y en a d'autres qui s'y prêtent beaucoup moins, les marronniers, les châtaigniers, ces genres d'arbres qui sont difficiles à entretenir, à réduire, surtout. Mais sinon, on peut faire du bonsaï avec tous les arbres.
Alors, peut-être avec le bémol de, ça va dépendre de l'endroit où on vit. Enfin, j'imagine un épicéa à Cayenne, ça va peut-être être compliqué.
Non, effectivement.
Ou
un érable dans le Pays Basque, ça va pas aller.
D'accord. Mmh. Ok. Il faut s'adapter que l'espèce soit adaptée au lieu, dans notre lieu de vie.
Et c'est le danger, à vrai dire, de beaucoup de débutants dans le bonsaï, c'est il y a un tel panel d'espèces plus ou moins jolies avec des floraisons, sans floraisons, que l'on a toujours envie au début, c'est d'avoir le maximum de variétés possibles. Or, le danger, c'est que toutes les variétés ne sont pas adaptées à l'endroit où on vit.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et donc, on risque des sacrés déboires, donc des arbres qui meurent. Mmh. Voilà,
ils sont habitués dans les régions où ils sont, mais quand tu changes après.
Certains ont besoin de plus de chaleur que d'autres.
Oui.
Voilà. D'autres d'une hygrométrie supérieure. Et donc, si on a une espèce qui a besoin de cette hygrométrie et qu'on vit effectivement dans le sud de la France, et l'arbre ne vivra pas longtemps, notamment les érables. Mmh.
Ok. Alors j'aimerais, pour finir cette partie, revenir à la question que je posais en introduction. Alors moi, c'est une vision personnelle des choses que j'ai, à savoir que la création des bonsaï rentre dans un champ complètement artistique. Cela dit, contrairement à une œuvre d'art dite classique, du moins au sens commun du terme, le bonsaï continue à vivre, alors qu'un tableau, une fois qu'il est peint, il va pas continuer à se peindre. Une œuvre de musique, pareil. Mmh. Et autre chose, c'est que le bonsaï, à un moment donné, il va être amené à mourir, quoi qu'il arrive. Je me dis qu'aucun bonsaï n'est éternel, alors que, je sais pas, moi, le requiem de Mozart continuera à vivre tant qu'il y aura des humains. Mmh. Donc, est-ce que, je m'en sais, avoir votre avis personnel, est-ce que pour vous, c'est une activité artistique?
Complètement.
D'accord.
Complètement, oui.
Et c'est... au Japon, c'est perçu comme ça aussi?
Aussi.
Ouais, d'accord.
D'ailleurs, au Japon, je reviendrai sur ce que je pense de l'art du bonsaï, mais au Japon, ils invitent les arbres dans leur maison. Donc, ils leur créent une alcôve qu'on appelle tokonama, et l'arbre est invité dans cette maisonnette, pour simplifier les choses, et pour le mettre en valeur. notamment au moment de la cérémonie du thé. Il y a vraiment beaucoup de valeurs qui nous-mêmes, en tant qu'Européens, nous dépassent. Mmh. Vraiment, on fait rentrer la nature chez soi et on vit au rythme de la nature. Donc sinon, oui, effectivement, le bonsaï, pour moi, c'est un art. On ne le possède pas au début, quand on démarre. Non.
Toute pratique artistique, je dirais.
Oui. Dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est la survie de l'arbre, la survie, la culture. On est dans la culture de l'arbre. Et je dirais, sur une échelle, on est à 90% de culture. Hein, et ensuite, 10% d'art.
D'accord.
C'est-à-dire que lorsque on expose un arbre, c'est que l'arbre, entre guillemets, est abouti. Il n'est jamais complètement abouti parce que c'est un être vivant. Donc il évolue tout le temps. Il a toujours c'est une mémoire vivante.
Il aboutit à un moment donné.
Voilà. À un moment donné, on se dit, il a atteint une telle maturité qu'il est bon de l'exposer, de le montrer au grand public.
Ouais.
Voilà. De faire partager cet art.
J'aimerais maintenant qu'on aborde la question du rapport au public et des expositions, parce que c'est vrai que les bonsaïs sont des choses qui se montrent. On voit de temps en temps, ça et là, des expositions. Est-ce que dans la région de Reims, on va dire, ou dans le Grand Est, on trouve facilement des expositions? Il y en a...
Alors,
c'est un peu subjectif et un peu large, ma question. Je peux peut-être la préciser. Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers à certains endroits? Alors, je sais que le Bonsaï Club de Reims, on vous voit tous les ans au Parc Champagne. Comment s'appelle cette manifestation? C'est le week-end de l'arbre, non? C'est ça?
Alors, le week-end de l'arbre a existé depuis quelques années. Il est un petit peu, effectivement...
Non. C'est depuis la Coupe du Monde féminine. Coupe du Monde féminine qui a eu lieu il y a 6 ans.
Ouais.
Et la ville de Reims a abandonné justement ce projet-là pour...
On trouve pas mal de l'exposition en région parisienne, j'imagine. Moi, je connais c'est à Châtenay-Malabry qu'il y a un musée.
Donc, on profite notamment du salon Tendance Nature.
Ah oui, il y a ça aussi.
Ah, donc à Reims.
Oui, tout à fait.
On profite aussi de Habitat et Jardin, donc ces deux grosses manifestations à Reims. Mmh. Donc ça nous permet, nous, en tant que club, d'exposer, de partager notre passion avec le public. Mmh. Uh-huh. Donc on réalise et on va réaliser prochainement, notamment lors du Salon Tendance Nature qui a lieu au courant mars, des petits ateliers. Donc ça permettra donc au public de voir comment on travaille les bonsaïs. Et comme je dis souvent, on amènera notre brouette de conseils aussi.
Oui, d'accord. Et donc là, prochainement à Damery, à côté des Pernets, donc les 22 et 23 avril, si j'ai bien travaillé, il y aura une exposition organisée par le Bonsaï Club de Reims.
C'est ça.
D'accord. Donc depuis quand vous préparez cet événement? Déjà, est-ce qu'il a lieu tous les ans?
Non,
d'accord.
Alors, il a eu lieu en septembre 2019. Puis ensuite, il y a eu tout l'épisode Covid. Mais après, ça, c'est lié aussi à une volonté du club d'organiser l'exposition dite régionale. C'est-à-dire que l'exposition régionale regroupe tous les membres, les membres actifs, les clubs, les clubs de la région Grand Est. Et ces clubs sont invités à venir notamment à Damery pour exposer leurs arbres.
D'accord. Alors quand oui, alors depuis quand vous la préparez cette exposition? Est-ce que c'est un gros travail de longue haleine?
Alors c'est quand même un gros travail. Oui. Alors la première exposition, celle de 2019, oui. Donc on était tout neuf, hein, dans, oui. Voilà, donc là il a fallu quand même réellement
bosser,
tout créer,
tout faire,
voilà, ah, tout créer. Mmh. Là maintenant, on a du matériel. Mmh. Ce matériel nous aide énormément pour préparer l'exposition du 22 et 23 avril.
D'accord.
Donc on gagne du temps, mais ceci dit, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mmh. La publicité, on a commencé, mais également penser à contacter les professionnels, à contacter toute la mise en bouche aussi, faut y penser.
Oui. Hein. Mmh. Et alors j'imagine qu'il y a, de la même manière qu'un bonsaï répond à des contraintes saisonnières, une exposition de bonsaï, c'est la même chose, on peut pas exposer les bonsaïs quand on veut. Ou est-ce que c'est une idée reçue?
On peut exposer n'importe quand.
D'accord, un feuillu en hiver, ouais. D'accord.
Okay. Au contraire d'ailleurs.
Ok.
Ouais.
Parce que justement, on voit sans ses feuilles, on le voit autrement.
C'est un. On parlait tout à l'heure de maturité.
Oui.
Lorsque l'arbre il a suffisamment donc d'années de travail, de culture, il a une ramification comme ses grands frères. Et cette ramification, elle est totalement, on va dire, cachée en été.
Bah oui,
oui en raison de ses feuilles.
Ouais.
L'idée, si c'est de l'exposer en plein hiver, et là, on voit effectivement tout le squelette de l'arbre. Mmh. Et là, on voit effectivement tout le travail réalisé le bonsaïka.
Ouais.
Donc c'est à double tranchant, hein. Ouais. Car s'il y a des défauts, on les voit d'autant plus.
Ouais. Et alors, au sein du club, donc comment s'opère le choix des bonsaïs à exposer? Est-ce que n'importe quel membre propose des sujets personnels? Vous faites une sélection? Est-ce que vous avez un nombre fixé déjà de bonsaïs?
Non, on n'a pas de nombre fixé. D'accord. De bonsaïs. Ce qu'on demande aux adhérents, aux membres du club, hein, c'est de présenter, si possible, un arbre en exposition, quoi. Mmh. Mais il y en a qui veulent pas.
Oui. Hein.
Mmh. Mais on n'est pas limité au nombre d'arbres.
Hein. D'accord.
On peut présenter trois arbres, quatre arbres.
Bon. Et c'est un choix collectif après.
Au départ, c'est un choix personnel.
Oui.
Moi, je dirais, c'est un choix un peu personnel, mais qui a été alimenté pendant des mois et des mois en répétant. On a une exposition régionale. Mmh. Pensez à préparer vos arbres pour cet événement, quoi.
Oui.
Et donc après, c'est un truc personnel de le présenter. Mais au départ, on dit à nos adhérents, allez, prépare ton arbre, celui-là, il pourrait être présenté, prépare-le, travaille-le, on va t'aider, ou un truc comme ça, quoi.
Et il peut même arriver qu'on veuille présenter un arbre, puis en fait, il n'est pas suffisamment abouti, et est-ce qu'il y a une décision collective qui va amener à dire, bon, peut-être pas celui-là, ou pas cette année.
Ouais. D'accord. Effectivement, on laisse...
un peu l'ego, j'imagine.
On laisse la liberté aux adhérents de présenter un arbre.
D'accord.
Ensuite, il y a l'idée de faire comprendre aussi à l'adhérent, sans le vexer, que l'arbre n'est peut-être pas encore suffisamment prêt, évolué, pour être exposé. Voilà, parce que on rentre dans une exposition dite régionale. Donc, il y a entre guillemets une concurrence, entre les arbres, entre les passionnés. Et donc, l'idée, c'est de montrer le plus beau.
Aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Oui.
Donc, on prévoit malgré tout, au sein même de l'exposition, un petit endroit où les arbres, entre guillemets, non encore
aboutis,
pourront aussi avoir leur place.
Et oui, puisqu'on pour voir le
travail du
processus,
processus.
C'est intéressant. Oui, bien sûr.
Ouais.
Ouais, ok. Voilà. Est-ce que du coup, dans la présentation de l'exposition, répond elle-même à des codes esthétiques?
Complètement.
Est-ce qu'il y a une façon de montrer le bonsaï? Voilà.
Ouais, ouais. Complètement.
Alors, c'est quoi, par exemple?
Alors, le bonsaï, il a besoin d'être accompagné.
D'accord.
C'est-à-dire que dans mon jardin, j'ai des bonsaï. Voilà. Mais ils ne sont pas en situation d'exposition. Mmh. Au même titre que lorsque vous allez faire une sortie, un gala, vous habillez, vous habillez autrement que les jours de la semaine. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va essayer Ben de mettre l'arbre en valeur. C'est l'arbre que l'on met en valeur, notamment en mettant, en le surélevant, en mettant une tablette. La tablette, elle est là pour, je vais le dire, surélever l'arbre, pour que l'arbre soit à vision de l'observateur, du visiteur. Cet arbre sera aussi accompagné d'une plante. Alors, dans la terminologie, ça s'appelle shitakusa. Voilà, c'est la plante d'accompagnement qui est là pour... alors, il y a plusieurs idées hein, là-dedans. C'est soit pour accompagner l'arbre dans son biotope, ou alors pour faire penser à la saison actuelle dans laquelle se trouve l'arbre, ou alors la saison future. Mais de toute façon, c'est l'arbre qui doit prédominer. Donc, il faut trouver... Et c'est ça justement la grande difficulté, c'est l'harmonie entre cette petite plante, la tablette, la couleur de la tablette, la forme de la tablette, le pot, la couleur du pot, avec le feuillage, pour que tout ça, ça crée un tableau vivant.
D'accord, donc on décide pas ça le matin même.
Ah non, jamais. D'où la grande difficulté, ouais, c'est d'avoir
faire en amont,
le... plusieurs chaussures, ouais. Vous voyez,
ouais. L'aspect, voilà. L'aspect créatif se poursuit jusque
voilà, dans et c'est une grande difficulté. Alors, très souvent, d'où l'intérêt d'un club, c'est de pouvoir faire des échanges, les plantes, voilà, ou alors des tablettes, de telle manière pouvoir adapter son arbre et faire en sorte que on ait une belle harmonie.
Alors, quelles sont les réactions des gens qui viennent vous voir? Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions? Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes questions?
Oui. La première question, quel âge a votre arbre?
Ah oui, ouais.
C'est une question qui vient quasiment tout de suite. Quel âge il a?
Et oui, parce que dans l'idée, je pense dans l'idée de beaucoup de gens, c'est des arbres multicentenaires souvent. Ouais. Pas forcément, non.
Ça
doit y avoir un autre cliché.
40 ans, mais ça, quand ils voient les gens, quand ils voient des belles pièces, ce qu'on appelle des belles pièces, quel âge il a. Après, la question, c'est quelle espèce?
Oui.
Puis après, ça peut venir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Bon, ça, c'est un peu le genre de questions classiques qui arrivent tout le temps.
Oui. D'accord.
Disons qu'il y a plusieurs regards. Il y a le néophyte qui va regarder la présence de fleurs, par exemple, qui va être attiré par les fleurs. Et puis, le passionné qui lui-même va regarder les fleurs, mais va plutôt rentrer dans l'arbre. Quand je dis rentrer dans l'arbre, c'est-à-dire voir la ramification de l'arbre, comment sont disposées les branches. Voyez. Donc, dans le public, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment... un amas de personnes qui ont des visions du bonsaï complètement différentes, au même titre qu'un tableau on peut évoquer une émotion particulière et votre voisin aura une émotion complètement différente. C'est pareil pour le bonsaï.
Ça rejoint l'idée d'art complètement. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des dégâts sur des sujets, des gens ils peuvent pas s'empêcher d'aller le toucher et ça casse? Ça arrive ça des fois?
Je dirais que on a eu cette chance que
non,
tant mieux, hein, tant mieux.
Non, mais on fait quand même très attention, enfin surtout dans les grosses expositions, on fait attention, on surveille, on est toujours, il y a toujours quelqu'un qui tourne dans les allées et quand on voit les gens qui commencent à toucher, on va gentiment en leur disant c'est pas à toucher quoi, on touche qu'avec les yeux.
D'accord.
Mais il faut rester vigilant.
Oui,
voilà.
Oui,
comme je le disais tout à l'heure, la plante d'accompagnement, elle peut facilement être subtilisée.
D'accord. Okay.
Oui. Ok. Donc faut quand même avoir des regards.
D'accord. Et alors parmi ces réactions du public, j'imagine que parfois il va y avoir des gens qui sont des amateurs plus ou moins éclairés, voire des pratiquants assez aguerris. Est-ce que leurs réactions peuvent vous amener à une idée à laquelle vous n'avez pas pensé? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, je crois. Ou au contraire, vous faire regretter des choix passés. Est-ce que vous ressortez des expositions avec une vision différente de vos arbres?
Ben, je dirais oui. Oui, parce que chacun a une vision, voit l'arbre avec ses propres yeux, et il est si facile de voir les arbres des autres, et notamment de constater les défauts dans les arbres des autres. Voilà, c'est tellement plus facile et visible que très souvent, il y a des échanges qui peuvent être passionnants ou non d'ailleurs. Et effectivement, ça permet quand même de faire avancer, d'avancer de sa vision. Et peut-être qu'avec le temps, l'idée que nous trouvions saugrenue ou peut devenir une très bonne idée.
Par exemple, dans les expositions, comme nous, on voit par exemple les arbres de nos adhérents, de nous, quoi. Et ce qui est intéressant quand on expose nos arbres en exposition, en tant qu'exposition, ce que l'on aime bien aussi, c'est avoir l'avis des juges. On aime bien avoir, si possible, l'avis des juges quand ils jugent nos arbres, savoir un peu ce qu'ils en pensent. Mmh. Voir un peu, ça nous donne aussi une autre idée. Et ça, c'est intéressant aussi. Pour la suite de l'arbre.
On va terminer par la notion de transmission, par le biais du Bonsaï Club de Reims, justement. Je voulais savoir, ce club existe depuis combien de temps?
Alors, ce club, il existe depuis un peu plus de 20
ans. Non, je vais dire, parce que là, moi,
un peu plus de 20 ans, maintenant.
Un peu plus de 20 ans, d'accord. Oui. Ok. Et il y a combien d'adhérents?
Actuellement, nous sommes 19.
19 adhérents.
Voilà.
D'accord. Et vous, Eric Berthelmy, vous le présidez depuis combien de temps?
Une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, d'accord. Ok. Et vous vous réunissez avec quelle fréquence à peu près?
On se réunit deux fois par mois.
Ok. Voilà. Okay. Donc à Reims.
À Cormontreuil maintenant.
À Cormontreuil, ouais. D'accord.
Okay. Jusque-là, nous étions à Reims. Mmh. Et pour des raisons de salle, nous avons. Immigré à Cormontreuil.
D'accord. Pour venir au Bonsaï Club de Reims, est-ce qu'il faut avoir un prérequis de connaissance, ou quelqu'un voudrait partir de zéro, ne posséderait même pas de bonsaï, sera-t-il le bienvenu Et est-ce que ça serait profitable pour cette personne d'ailleurs?
On peut arriver avec entre guillemets zéro de connaissance. Il suffit d'arriver avec la passion.
Oui.
La passion. La passion suffira à grandir dans cet art du bonsaï. Et nous sommes donc, le club est là pour accompagner les futurs bonsaïkas, même avec un niveau faible. Voilà.
Donc l'idée de ce club, c'est la transmission du savoir en premier lieu. C'est le fait comme vous dites, d'accompagner, d'aider les gens et apporter la connaissance. Donc c'est pas seulement
notre propre connaissance.
Hein, oui, parce que
après, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir d'autres connaissances, mais on aide les gens.
Donc c'est pas une réunion d'amateurs éclairés entre eux. Il y a pas d'entre-soi. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une idée
d'ouverture. Il y a plusieurs étapes dans nos réunions.
Il y a plusieurs niveaux de connaissances.
Plusieurs niveaux de connaissances. Oui. Mais il y a des moments où on discute simplement sur un petit arbre. Mais il y a des fois, on va discuter sur un arbre beaucoup plus abouti, beaucoup plus techniquement, quoi. Mais il y a toutes les étapes. Hein. On s'adapte.
Voilà,
suivant la période, suivant le moment, on s'adapte à la personne ou au moment présent. Quoi.
D'accord.
C'est comme à l'école, hein, il y a des niveaux différents. L'idée, c'est de créer des ateliers pour justement permettre aux uns et aux autres d'avancer à leur rythme, en fonction de leurs connaissances. Donc, pour que personne ne s'ennuie. Donc, on avance et tout le monde est accompagné. Donc, on crée des ateliers, des petits îlots, où on apprend les bases, et petit à petit, ces personnes qui étaient arrivées avec un niveau, on va dire, très faible de connaissances, mais encore une fois avec la passion, grandissent, et petit à petit commencent à avoir des arbres très intéressants.
D'accord. Alors, en dehors de vos réunions bimensuelles, est-ce que vous avez des événements spéciaux, par exemple l'organisation de stages avec des professionnels, par exemple?
En général, oui. En général, deux fois par an, une fois par semestre, On invite des bonsaïka professionnels pour, disons, pour des ateliers bien techniques, quoi, parce que là, c'est un peu technique quand même, et pour que nous, on puisse avancer aussi sur nos arbres avec une vue de personnes un peu plus fortes, j'allais dire fortes que nous, non, qui ont peut-être plus de connaissances ou plus de pratiques, quoi. Et donc là, on organise en général un atelier tous les semestres avec sur un week-end. Ils participent ceux qui veulent, bien sûr.
Alors, il y a également, au sein même de la Fédération française de bonsaï, tout un, comment dirais-je,
un panel
de formateurs pour justement permettre au club d'évoluer. Ah, notamment, il y a ce qu'on appelle, pour les passionnés, la FAC. C'est la formation des animateurs de club. Et donc là, donc moi j'en fais partie, étant donné que je suis N1, Michel aussi. Et le but c'est que on puisse acquérir pas simplement que des connaissances, mais aussi la manière d'amener ces connaissances aux adhérents.
D'accord.
La manière. Donc
ouais.
La pédagogie. On est dans la pédagogie.
D'accord. Ouais.
Voilà.
D'accord.
Il suffit pas de dire, bah là, tu coupes à cet endroit-là. S'il n'y a pas, justement, l'explication qui va avec, et l'art et la manière de le dire, ça peut créer, quelquefois,
des gros problèmes.
Des petites tensions, quoi.
La
compréhension, surtout.
Oui.
L'idée, c'est vraiment d'avoir les bons mots et de pouvoir mener à bien, un cours, qu'il soit théorique, parce qu'on fait des cours théoriques au club, mais aussi des cours pratiques. Donc,
d'accord,
tout ça, il faut apprendre et être capable de s'exprimer et d'amener et puis de faire vivre et qu'il y ait réellement un échange. Et c'est ce qui se passe au club de Reims. Il y a vraiment un échange de connaissances.
D'accord. Alors, j'aimerais aborder une dernière notion. On en parlait en off tout à l'heure. Quand on parle de transmission, donc on peut parler de transmission du savoir, mais en ce qui concerne le bonsaï, il peut arriver que les bonsaïs survivent à son propriétaire et passent d'un propriétaire à l'autre. Et ce qu'on se disait tout à l'heure en off, justement, c'est une notion qui est vraiment toute particulière, parce que, vous le disiez tout à l'heure, Eric Berthélémy, on est dépositaire de l'ancien propriétaire. Il y a une notion un peu symbolique, même.
Effectivement.
C'est difficile, ça.
Oui. Pour l'avoir vécu,
oui.
Parce que je suis dans cette situation-là, l'ancienne présidente du Bonsaï Club de Reims, qui s'appelle Daniel Bobby, ne pouvait malheureusement plus, en raison de son grand âge, entretenir ses bonsaïs. Et donc, elle a souhaité me donner une partie de sa collection. Donc, j'étais donc dépositaire de son travail. Donc, c'était un grand plaisir à la fois, mais aussi une responsabilité, car on est encore une fois dans du vivant. Donc elle m'a transmis des arbres qui avaient 30 ans d'âge. Donc 30 ans de travail, ce n'est pas rien. Donc j'ai un arbre qui sera notamment exposé prochainement en Belgique au Trophy, ce week-end prochain,
d'accord,
qui sera de nouveau exposé à Damery, qui a été donc sélectionné.
À Nancy.
Oui, effectivement, aussi à Nancy, comme dit Michel. Et donc, moi, j'ai poursuivi son travail. C'est-à-dire que j'ai respecté le travail de Daniel, mais quelque part, j'ai aussi donné ma propre vision. Donc, j'ai sélectionné des branches, j'en ai coupé d'autres, j'ai remis en forme l'arbre. Et donc, quelque part, c'est à la fois l'arbre de Daniel, comme je le dis très souvent, mais aussi un peu l'arbre d'Éric maintenant.
Et vous a donné des directives ?
Oh, pas du tout, elle m'a
non.
fait entièrement confiance.
Ouais, ouais.
Voilà, donc il y avait déjà ce lien d'amitié qui était fort entre nous. Et ce lien d'amitié, je l'ai à travers ces arbres maintenant.
Ouais.
Donc c'est pour moi quelque chose de très important et je suis toujours un peu ému parce que ce sont les arbres de quelqu'un. Et de me faire confiance, m'avoir fait confiance, je le disais tout à l'heure en off, c'est que son arbre est encore plus important que mes propres arbres.
Ah oui, ouais. Ouais, c'est intéressant et ouais, c'est émouvant même, ouais, je trouve. Alors, dans la tradition de Créodyssée, on demande à nos invités s'ils ont envie de mettre à l'honneur un artiste ou une artiste ou une œuvre d'art en particulier. Alors, Eric Berthélémy, on en avait parlé au téléphone, et je crois que vous avez choisi quelqu'un qui pratique un art en lien avec les bonsaïs, justement.
Oui, tout à fait. Alors, cette personne, c'est pour la nommer, hein, c'est Martine Geoffroy.
D'accord.
Qui habite dans le département de l'Aveyron, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Sauveur-du-Larzac, au bord de la Dourbie, pour les connaisseurs, et elle est céramiste. Donc, dans le monde du bonsaï, on a besoin des céramistes, hein, puisque on a besoin d'un pot. Et on a surtout besoin de quelqu'un qui connaisse aussi le monde du bonsaï, qui sache être à notre écoute. Et c'est très compliqué d'être à l'écoute d'un bonsaïka, car le bonsaïka, il a une idée précise, à savoir la forme d'un pot, la dimension d'un pot, la couleur du pot, et tout ça, c'est, il faut que ça soit digéré par la céramiste, et qu'ensuite, à partir de toutes ces demandes, elle puisse réaliser le pot qui conviendra parfaitement à l'arbre.
D'accord. Donc vous pouvez lui donner des indications très précises de ce que vous voulez et elle arrive à vous produire le pot que vous imaginiez depuis des mois.
Complètement.
Ah, c'est chouette.
C'est ça, ouais.
Ouais. D'accord. Et c'est trouve son travail sur Internet?
Ah oui, on va sur Nendozaï.
D'accord. Je donnerai le lien en sous-texte de l'épisode.
Voilà, on a toutes ces... son site, et puis également tous les pots qu'elle peut réaliser, et on peut la contacter assez facilement.
D'accord, très bien. Et ben Eric Berthélémy et Michel Bisserier, je vous remercie grandement de m'avoir reçu pour parler des bonsaïs. C'était un vrai plaisir, c'était très intéressant.
Merci, on a vraiment apprécié cet échange.
Et ben merci. Amis auditeurs et auditrices, si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pourrez retrouver bon nombre d'informations en sous-texte de l'épisode, notamment les liens qui vous guideront vers le Bonsaï Club de Reims et l'exposition de Damery des 22 et 23 avril prochains. Créodyssée est un podcast gratuit et indépendant et qui vit grâce aux bouche à oreille, alors n'hésitez pas à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et encore mieux à en parler de vive voix autour de vous. Vous pouvez nous écrire au mail creodyssee@gmail.com ou via notre page Facebook. Géraldine et moi, nous vous retrouverons très prochainement et d'ici là, restez curieux.